L'onde du bois, une chronique de Lionel Ripaud.
Salut Lionel.
Bonjour Maëline et bonjour Amina.
Alors écoute, c'est une coïncidence hein, le fait qu'on ait fait gagner ce sapin aujourd'hui.
Extra.
Mais j'ai compris qu'on restait dans le thème avec notre chronique.
Voilà, j'ai vraiment pas fait exprès. À l'approche des fêtes de fin d'année, je vous imagine toutes et tous en train de décorer vos intérieurs pour fêter comme il se doit la nativité avec ou sans les petits diablotins. Tiens, d'ailleurs, les diablotins, ça me rappelle quelque chose. L'histoire que je vous ai contée il y a 2 semaines à propos de la naissance du sapin grâce aux enfants du diable. Et ça tombe très bien, car je vais aujourd'hui vous dresser le portrait de ces fameux sapins. Donc, sapin, genre Abies, hein, famille des pinacées.
Alors justement, avant de parler bois, sylviculture ou d'utilisation hein, par les hommes, est-ce que tu peux nous parler de son origine, de son usage dans les fameuses fêtes de Noël ?
Oui, bien sûr, Maëline, et je me servirai pour cela du livre « L'herbier boisé » que je vous recommande vivement et dont l'auteur est Bernard Bertrand, un ancien étudiant de Neuvik. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Bernard ? Eh bien, le terme de sapin, dans son acceptation large et populaire de sapin de Noël, assimile et confond pin, épicéa et sapin. Ce qui explique les confusions entourant le juteux commerce de fin d'année. Arbre de la Renaissance chez les peuples du Nord, il était associé à la fécondité féminine. Au Moyen-Âge, en suivant les traditions scandinaves et germaniques, où culte païen et pratiques chrétiennes se mélangeaient parfois intimement, le peuple avait pris l'habitude, à l'occasion des fêtes de la Nativité, de dresser dans la pièce principale des maisons un sapin. L'arbre était décoré de pins ou teinté de guirlandes végétales et de friandises maison. Mais l'Europe de l'Ouest restait hermétique à la magie de l'arbre enguirlandé. C'est que les pratiques festives qui accompagnaient son érection n'étaient pas du goût de tous. Agapes, bonbons et ripailles étaient alors de mise. Elles déplaisaient foncièrement aux pourfendeurs chrétiens des plaisirs terrestres.
Ah oui, donc on se doute aussi hein, que le sapin pouvait représenter donc évidemment un symbole païen dont l'Église hein, voulait éradiquer leur présence dans les mœurs. Ça a duré plusieurs années.
Oui, tout à fait. Et le temps faisant son œuvre, la tradition gagna pourtant l'Alsace au XVe siècle. Le prélat de Strasbourg, inquiet de l'ampleur du phénomène, tenta bien d'en interdire la diffusion. Las, au XVIIe siècle, la belle-sœur de Louis XIV, Élisabeth Charlotte, princesse palatine, introduit la coutume à Versailles. Les sapins sont alors décorés de bougies, de guirlandes, de sucre étiré et de pommes caramélisées. Le succès d'estime restera modeste et le sapin de Noël ne sortira pas des murs du Palais des Glaces. Mais son histoire est en marche. En 1840, une autre princesse germanique, Hélène de Mecklembourg, se souvenant des festivités de son enfance, convainc son époux, le duc d'Orléans, d'introduire le sapin natal aux Tuileries. Il y fit sensation. Pour que l'usage gagne le peuple de France, il fallut attendre la guerre de 1870 et son lot de souffrances et de déportations. De nombreux Alsaciens expatriés durent quitter leur terre natale, emmenant avec eux leurs traditions, même les plus récemment enracinées. Et le sapin de Noël s'imposa. Le succès fut tel qu'il est devenu une véritable industrie. Aujourd'hui, il se vend en France plus de 10 millions de sapins en pot ou coupés, qui le plus souvent sont des épicéas, parfois même des Douglas. Et c'est bien dommage, car de tous les sapins de Noël, le sapin pectiné, le vrai, est celui qui garde le plus longtemps ses aiguilles, après avoir été coupé. On peut parler également du sapin de Norman qui est à gagner sur Radio Vassivia en ce moment. Hélas, ou heureusement pour lui, sa croissance est trop lente.
Et oui, donc même à l'occasion de la célébration de la naissance du Christ, le temps reste de l'argent. Et en forêt, dans nos belles forêts du plateau de Millevaches, eh bien, quelle est sa place de ce sapin ?
Eh bien, déjà, on en retrouve plusieurs espèces des sapins. Le seul indigène, c'est le sapin pectiné, Abies alba, qu'on appelle aussi sapin blanc ou sapin des Vosges. Tous les autres étant des exotiques. Sapin de Vancouver, donc le Abies grandis, sapin de Norman, Abies normaniana, sapin de Turquie, Abies Bornmüller, et sapin de Céphalonie, Abies céphalonica. Céphalonie, une île grecque. À tort, on dit du Douglas que c'est un sapin. En réalité, il s'agit d'un pseudotsuga, et je vous en reparlerai lorsque je représenterai son portrait dans une chronique prochaine. Donc là, on se concentre sur le sapin de pectiné, et puis surtout le sapin de Vancouver, qui sont sur le plateau de Millevaches. Hein, le plateau de Millevaches est majoritairement enrésiné, et parmi tous les résineux, les sapins pectinés sont peu représentés, car comme je l'ai dit tout à l'heure, leur croissance est plutôt assez lente, contrairement à son cousin, le sapin de Vancouver, plus connu sous le nom latin de Grandis, hein, qui a largement été répandu dans un souci de productivité quantitative. En effet, le sapin de Vancouver pousse très vite, mais produit un bois de plus faible valeur mécanique que le sapin pectiné. Le sapin de Vancouver ne donnera que des bois d'emballage, palettes et trituration, alors que le sapin pectiné donnera un bois de charpente réputé, mais aussi de menuiserie pour la fabrication de cercueils et de caisseries.
Les sapins de Vancouver, ce ne seraient pas ces grands sapins à écorce lisse avec des vésicules résineuses sur l'écorce?
Ouais.
Il me semble qu'ils sont en mauvais état, en train de mourir en ce moment.
Ouais, en effet, Maëline, on peut le dire ici. Ça sent fortement le sapin pour le sapin de Vancouver. Car comme il pousse vite et qu'il a donc de forts besoins en eau, que la modification progressive du climat local ne peut pas satisfaire, hein, on est en train de passer en ce moment d'un climat montagnard à tendance océanique à un climat de plus en plus continental, même si le climat actuellement me fait un peu mentir, eh bien on peut voir tous ces gros bois et très gros bois, hein, les sapins de Vancouver. Donc l'origine du nom Grandis d'ailleurs remonte à sa découverte par les explorateurs du XVIIIe siècle, impressionnés par sa très grande taille, en train de perdre leurs feuilles et sécher très vite sur pied. En 10 ans, j'ai vu beaucoup de peuplements passer de vie à trépas. Et puis c'est étonnant car ils ont produit beaucoup de semis, à mon avis par stress et lutte pour la survie de l'espèce, ce qui engendre l'apparition de tapis de régénération à profusion. Alors cette régénération, hein, ces semis, dès qu'ils sortiront leur tête au soleil avec un fût de plus de 10 mètres, eh bien malheureusement ils commenceront à sécher. Wait and see.
Donc si je comprends bien, le Grandis n'a plus d'avenir ici, mais qu'en est-il des autres?
Eh bien on pourra toujours se servir du Grandis comme intermédiaire, mais malheureusement il ne donnera plus que de la palette et de la trituration. Conduits en futaies irrégulières mélangées, les sapins pectinés, sapins de Normanne et sapins de Turquie sont des arbres qui poussent lentement, stabilisent tranquillement la croissance des peuplements et dans certaines parcelles bien conduites, on peut récolter de très beaux sapins. Je pense notamment à toute la frange est du plateau de Millevaches qui est flanquée sur les gorges du Chavanon, hein, Merline et Gurande, où j'en avais coupé des très beaux, des très gros. On en retrouve aussi bien protégés dans les gorges ou combes. Je peux citer la Combe Noire à Saint-Étienne de Chaumeil, par exemple, hein, où il y a vraiment des très beaux sapins. Il y a de l'avenir pour les sapins et des essais sont en ce moment portés sur le sapin de Turquie qui est installé en plantation mélangée en plein ou en enrichissement.
C'est quoi un enrichissement en fait ?
Eh bien, c'est simplement une plantation sous étage d'un autre peuplement dominant. D'ailleurs, avec les sapins, ça marche très bien car ils sont siaphiles, c'est-à-dire qu'ils préfèrent l'ombre dans leur jeune âge pour pousser.
Et alors, qu'en est-il justement de ces fameux sapins de Nordmann ?
Eh bien, ils feront très bien l'affaire dans nos salons lors des fêtes, c'est même leur première destination, mais ce sera encore mieux si on les garde en forêt pour en faire planches, poutres, beaux arbres dans le paysage. Pour les sapins à croissance lente, comptez les vendre sur pied à partir de 54 € le mètre cube. Il m'est déjà arrivé d'éclaircir un peuplement de sapins de Nordmann de 15 ans, planté initialement pour faire des sapins de Noël. Donc une plantée très serrée, hein, c'est 1 mètre par 1 mètre. Alors normalement, on récolte les sapins de Noël entre 5 et 10 ans. Mais là, le propriétaire, dans ce cas-là, ne les avait pas coupés. Et on les a donc tous conservés pour les élever en peuplement forestier. Autant vous dire que, vu la densité, hein, 1 mètre par 1 mètre sur 10 000 m², ça fait 10 000 plants à l'hectare, eh bien, ils sont bien droits aujourd'hui et sans branches. C'est très prometteur pour la suite et dans l'objectif de production de bois d'œuvre. Et puis maintenir en vie un peuplement de sapins, c'est au final en quelque sorte respecter les symboliques du sapin, la sobriété et l'éternité.
Eh bien c'était intéressant cette chronique aujourd'hui. Alors bon, j'imaginais qu'il y avait quand même différentes variétés de sapins. Ouais. Combien est-ce qu'il y en a au final ?
Ah, énormément, hein, mais sur le plateau de Millevaches, on en compte principalement 4, donc le sapin pectiné, le Vancouver, le Bornemuller et le Norman. Ouais, donc.
Bah écoute, ça invite à la méditation devant son beau sapin de Noël. Et justement, comme d'habitude, on se quitte en musique avec ce fameux morceau que je te laisse annoncer, Lionel.
Voilà, bah, on ne pouvait pas passer à côté de O Tannenbaum pour rester dans cette méditation. Et il provient de l'album A Charlie Brown Christmas, les Peanuts.